Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Vous êtes vraiment un Dieu caché, le Dieu d'Israël, le Sauveur. Alléluia. Mes très chers frères, rien n'est plus difficile que d'appliquer ce que l'Écriture nous enseigne de la Sainte Famille aux familles chrétiennes. Tant tout ce que nous y voyons dans cette Sainte Famille est merveilleux, surnaturel, paradoxal et mystérieux. La Sainte Famille de Marie, de Joseph, Saint Joseph, la Sainte Vierge et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une famille qui est sainte, c'est la famille du Fils éternel de Dieu, incarné de la très Sainte Vierge Marie, qui était soumis à ses parents, sachant que la Sainte Vierge était elle-même soumise à Saint Joseph. C'est une famille unique en son genre, qui n'a pas d'équivalent, ni dans le ciel ni sur la terre. La Sainte Famille n'est donc pas une famille commune, mais particulièrement sainte, dont nous pourrions tirer des enseignements. C'est la famille même du Fils éternel, que le Fils éternel de Dieu s'est composé, s'est faite, s'est voulu, s'est choisi, s'est élu de tout temps, dès avant les temps, afin qu'il puisse être de là, vrai Dieu, lui qui est le vrai Dieu, vrai homme, se manifester comme vrai homme. Beaucoup de choses ont été dites des pères de cette soumission de notre Seigneur enfant à ses parents, à sa mère, à son père adoptif, à la mère de Dieu, à Saint Joseph, l'époux de la Bienheureuse Vierge Marie. Beaucoup de choses ont été dites de cette véritable humanité que notre Seigneur a et qu'il a assumée pour notre salut, sans laquelle eh bien, il n'aurait pas pu être le Sauveur qu'il est pour nous, puisqu'il ne serait pas un vrai homme autant qu'il est vrai Dieu. La Sainte Famille, donc, n'est pas une famille commune. Elle est le modèle, elle est le modèle de conformité, avant tout de conformité à la volonté de Dieu. Ce qui est remarquable en elle, c'est sa charité, c'est-à-dire son amour pour Dieu, qui se manifeste par la perfection dans les œuvres de chacune des personnes de cette Sainte Famille, œuvres qui sont la mesure, qui servent de mesure aux nôtres, toutes en s'inscrivant dans une réalité supérieure à la nôtre. Nous devons donc écouter l'apôtre, mes très chers frères, qui, dans l'Épître, nous donnera en quelque sorte la clé de l'imitation que nous devons, à laquelle nous devons nous livrer de la Sainte Famille. Autrement, la Sainte Famille court le risque d'être réduite par nous à simplement une famille humaine quelconque, à imiter, ce qui est totalement faux. Il y a quelque chose de très difficile, comme je le disais, dans l'application des vertus domestiques de la Sainte Famille aux familles chrétiennes. Et pourtant, nous allons le faire, avec, en tout cas dans la mesure de nos moyens, avec l'aide du Saint-Esprit. Nous aurons plusieurs choses à voir, avec l'aide du Saint-Esprit toujours. Premièrement, nous verrons comment les membres de la famille chrétienne sont nos prochains et comment nous devons nous conduire vis-à-vis d'eux. Deuxièmement, nous verrons, à la lumière de la Sainte Famille, ce que signifie la charité dans la famille. Et nous verrons aussi un certain nombre d'erreurs, ou quelques-unes du moins, quelques erreurs communément commises qui rendent stérile la foi, du moins la foi de certains membres de la famille. Et en troisième point, nous verrons, d'après les paroles de l'apôtre, comment la paix doit régner dans la famille chrétienne et comment elle se manifeste. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Écoutez ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens. Mes frères, revêtez-vous comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de modestie, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant mutuellement si quelqu'un a sujet de se plaindre contre un autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous, vous aussi. Mais par-dessus tout cela, ayez la charité qui est le lien de la perfection. Il dit encore d'autres choses que nous verrons un peu plus tard. Comme des élus de Dieu, la clé de la compréhension du modèle que nous propose l'Église dans la Sainte Famille, la clé, c'est le fait que nous sommes chrétiens. Nous ne pouvons pas tirer un modèle naturel de la Sainte Famille, tout simplement parce que la Sainte Famille n'existerait pas si elle devait être réduite à quelque chose de naturel. Elle est donc unique en son genre, inimitable en son genre, et nous devons le dire de peur, encore une fois, de profaner la Sainte Famille en faisant d'elle une famille normale, supérieure, disons, mais semblable aux autres. Elle n'est pas semblable aux autres, elle est totalement paradoxale. Le plus petit est le plus grand, l'homme, le père, n'est que le père adoptif, et la mère n'est pas simplement la mère d'un homme, elle est la mère d'un Dieu. Donc tout est paradoxal, nous devons absolument éviter le piège de réduire la Sainte Famille à une institution, voilà, la manifestation de l'institution de la famille, donc telle que Dieu la veut, mais d'un point de vue naturel ou adaptable à la nature. Il est impossible d'aborder le mystère de la Sainte Famille d'un point de vue simplement naturel, quand bien même la famille chrétienne relèverait par certains côtés de la nature, évidemment, puisqu'elle est une institution naturelle et donc surnaturalisée par la grâce. C'est pour cela que l'Église nous donne à entendre ces paroles que nous ne devons pas, sur lesquelles nous ne devons pas passer trop rapidement. Revêtez-vous comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Induite vos, sicut electi Dei, sancti et delecti. Avant même de voir quoi que ce soit par rapport à la famille, nous devons comprendre, mes très chers frères, que nous devons nous comporter au sein de nos familles, et quand je dis nos familles, ça peut être aussi les communautés religieuses, bien entendu, nous devons nous comporter avec l'assurance dans notre famille en tant que chrétiens, et nous verrons qu'il s'agit des familles tout entière composées de chrétiens, que composés de chrétiens et de gens qui n'ont pas encore la foi. Parce que ce sont des cas de figure qui peuvent arriver aussi, rien ne sort de la volonté de Dieu, bien entendu, tout arrive pour un but, mais il se trouve que certains ont la joie d'être dans une famille entièrement chrétienne, et d'autres ont, disons, la tristesse de ne pas voir tout le monde uni dans l'unité de la foi. Néanmoins, puisque vous écoutez cet enseignement, c'est que vous êtes chrétien. Donc il faut comprendre que nous devons nous comporter avec l'assurance d'être aimés de Dieu. C'est une chose qui semble aller de soi, puisque nous sommes chrétiens, et peut-être même que certains diront, c'est la moindre des choses, je ne vois absolument pas pourquoi est-ce que même vous prenez le soin de le mentionner. Puisque c'est une chose qui est évidemment éminemment naturelle pour le chrétien. Eh bien, ce n'est pas exactement le cas, mes très chers frères. C'est pour cela que, sans doute, l'Église nous fait entendre ces paroles aujourd'hui, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Nous devons nous comporter donc avec l'assurance d'être aimés de Dieu, mais nous ne devons jamais nous départir de la conscience que nous en sommes indignes. C'est-à-dire que, bien sûr, Dieu, notre Père céleste, nous aime comme ses enfants. Mais, à strictement parler, nous en sommes indignes. Vous voyez, bien souvent, quand nous entendons parler des charismatiques ou des gens, disons, de la gentilité, qui sont pieux et qui ont une certaine notion du christianisme, un peu comme les protestants, comme les schismatiques, des gens qui ne sont pas dans l'ignorance totale de l'évangile, eh bien, on les entend parler et ils nous disent, mais c'est évident que Dieu nous aime. Alors, il faut faire la distinction. Il est certain que Dieu aime ceux qu'il aime, de telle sorte que ceux qu'il aime sont vraiment aimés de Dieu. Maintenant, qui sont aimés de Dieu? Qui est aimé de Dieu? C'est le mystère de Dieu. Puisque nous sommes chrétiens, puisque nous sommes baptisés, nous devons, d'un côté, avoir l'assurance, nous comporter avec l'assurance d'être aimés de Dieu. Nous ne devons pas passer notre vie à nous dire j'ai lu quelque part dans l'Écriture que nul, tant qu'il vit, ne sait s'il est digne d'amour ou de haine de la part de Dieu. Donc, du coup, je ne sais pas, peut-être que Dieu ne m'aime pas. Non, nous devons faire comme si Dieu nous aimait. Et pour, en quelque sorte, sceller cette assurance, qui est quelque chose de tout à fait inouï quand on y pense, nous qui méritions qui avons mérité par le péché de notre premier père le titre d'enfant de la colère, voilà que, suite au baptême, nous nous comportons avec l'assurance d'être aimés de Dieu. Eh bien, pour mettre le sceau sur cette sainte assurance et pour ne pas en faire une témérité terrible, eh bien, nous devons ne pas nous départir de la conscience que nous sommes indignes d'être aimés de Dieu. Si Dieu nous aime, c'est en son Fils. Si Dieu nous aime, ce n'est pas tel que nous sommes nés d'Adam, mais que nous sommes renés du Christ par le baptême. Donc, il nous aime parce qu'il nous aime dans son Fils. Donc, vous voyez, ce n'est pas minimiser l'amour de Dieu pour nous, et je dis bien pour nous, parce que nous devons avoir l'assurance que nous sommes aimés de Dieu, mais ce n'est pas minimiser l'amour de Dieu pour nous que de dire qu'il nous aime d'un amour paternel véritable dans son Fils. Si nous étions trouvés en dehors de son Fils, Dieu ne pourrait pas être dit nous aimer de cet amour paternel salvifique. Il nous aimerait comme le Créateur aime ses créatures, mais il nous aimerait un peu plus sans doute qu'il n'aime les moustiques, les taupes, les chiens, etc., parce que ce sont ses créatures, mais il nous aimerait un peu plus parce que nous sommes faits à son image, mais il se trouve que, étant livré au pouvoir du diable et aimant notre maître, ayant été appelé par le Christ enfant du diable, nous ne pouvons pas admettre cette idée, quand on y pense bien, très saugrenue, que Dieu aime tous les hommes comme il nous aime, nous les chrétiens. Il nous aime d'un amour très spécial parce qu'il nous aime en son Fils. Il aime d'avance tous ceux qu'il a donnés à son Fils et qui sont encore parmi les méchants, parmi les mécréants, bien entendu. Je ne dis pas le contraire, puisque cet amour, c'est l'amour de Dieu dans l'absolu. Mais il se trouve que être chrétien, c'est être aimé de Dieu d'une façon très particulière, puisque c'est être aimé dans le Fils, de l'amour par le Père, de l'amour dont le Père aime son Fils bien-aimé. C'est pour cela que nous devons, avec cette ferme assurance d'être aimés de Dieu, ne jamais nous départir de la conscience que, en nous-mêmes, nous sommes indignes d'un tel amour. Et loin de générer la défiance envers Dieu, cela va générer au contraire la reconnaissance. Si Dieu ne peut pas ne pas aimer les hommes, si Dieu aime les chrétiens comme il aime toutes ses créatures, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Donc pourquoi est-ce que je lui en serais reconnaissant? Maintenant, si Dieu aime d'un amour qui n'est pas un amour à salut, salvifique, toutes ses créatures, s'il aime d'un amour salvifique ceux qui sont trouvés in Christo, dans le Christ, ceux qui sont trouvés in Christo, dans le Christ, doivent, donc dans le Christ, doivent être conscients que, à moins de correspondre à cet amour spécial dont ils ont été aimés, leur assurance d'être aimés de Dieu n'est que de la témérité. Et pour nous persuader que nous devons être reconnaissants envers Dieu, nous devons comprendre et nous persuader avant tout que nous sommes indignes d'être aimés de Dieu tels que nous sommes en nous-mêmes. Cette reconnaissance est donc quelque chose qui va décupler en quelque sorte notre amour de Dieu, et plus nous méditerons sur le fait qu'en nous-mêmes nous sommes indignes d'être aimés de Dieu, plus nous trouverons l'amour que Dieu nous porte et qu'il nous voue en son Fils et digne d'être, nous trouverons Dieu digne, si j'ose dire, d'être aimé en retour, même si cette expression est frise quasiment l'impertinence et le sacrilège. Dieu, est-ce que Dieu est digne d'être aimé en retour? Dieu est digne d'être aimé. Notre reconnaissance doit être donc le fruit de cette connaissance de nous-mêmes et de la connaissance de l'amour que Dieu a pour nous, et elle doit être aussi préventive de l'ingratitude, de telle sorte que nous ne soyons jamais trouvés ingrats par rapport à ce Père céleste qui nous a tant aimés au point de donner son Fils unique pour nous. C'est pour cela que saint Paul, un peu plus loin dans le texte que nous avons sous les yeux, donc le texte de l'Épître, nous dit « Et soyez reconnaissants, vivez dans la gratitude ». Vous allez dire, ce sont des notions très générales qui n'ont pas un lien très direct avec le sujet de la Sainte Famille. En réalité, en tant que chrétiens, puisque nous sommes appelés à vivre dans notre famille, donc c'est-à-dire que ou bien nous sommes des gens qui vivons dans la famille, donc un enfant qui vit dans la famille avec ses parents, des gens, des laïcs mariés qui y vivent et qui composent une famille, ou des religieux qui composent la famille religieuse, ou alors la communauté au sens très large du terme, des religieux et des laïcs vivant, disons, dans cet esprit de charité, sous la houlette des pasteurs légitimes, etc. Tout ceci sont des manifestations de la domesticité, de la famille. Donc, si nous deux, puisque nous vivons d'une manière ou d'une autre dans la famille, qui est la famille de Dieu, il se trouve que nous devons tous comprennent, d'une part, que nous sommes aimés de Dieu, et d'autre part, que nous sommes indignes d'être aimés si nous sommes considérés en nous-mêmes. De telle sorte que tous ensemble, nous qui vivons ensemble dans la même famille, eh bien, à divers degrés, nous soyons caractérisés par la gratitude. Vous allez voir que c'est très important. Parce que saint Paul nous dit, comme des élus de Dieu, donc comportez-vous comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de modestie, de patience. Vous voyez pourquoi dit-il comme des élus de Dieu? Parce que très souvent, on pourrait dire, quoique, et on l'entend dire, quoique je sois baptisé, quoique je sois chrétien, je ne suis pas un saint. Donc le fait de me revêtir d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de modestie, de patience, ça c'est bon pour les, ça c'est pour les saints. Moi je suis un chrétien, éventuellement fier de mon christianisme, et il se trouve que je mène ma vie comme je le peux, en évitant qu'on me marche dessus, parce qu'il ne faut pas exagérer. Vous voyez, si il se trouve que nous devons avoir cette ferme assurance d'être aimés de Dieu, quoique nous en soyons indignes en nous-mêmes, c'est pour nous comporter comme des élus, c'est-à-dire comme des saints, pas simplement au sens restreint et caricatural des saints du calendrier, mais comme ceux qui ont été mis à part, afin que, alors que l'humanité tout entière qui gît sous la puissance du diable est incapable d'aucune bonne œuvre, nous puissions nous-mêmes, comme des bien-aimés de Dieu, nous revêtir à son image d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de modestie, de patience. C'est-à-dire, mes très chers frères, que si nous ne sommes pas de bons chrétiens pratiquants, pour parler comme les mondains, eh bien, nous ne sommes pas chrétiens. Alors, bien sûr, je ne dis pas que dans l'absolu, nous ne sommes pas chrétiens. Si nous ne sommes pas séparés de l'Église par le schisme ou l'apostasie, effectivement, nous restons membres, bien entendu, de l'Église. Loin de moi de dire que l'Église n'est composée que des membres vivants stricto sensu. Elle est composée ici-bas, l'Église militante, est composée de tous ceux qui n'en sont pas séparés. C'est vrai. Mais, sous un autre rapport, à quoi bon faire partie de l'Église si c'est pour en être un membre mort? À quoi bon être hanté dans la vraie vigne si c'est pour être un rameau stérile et qui va bientôt être coupé? Nous devons donc, mes très chers frères, nous caractériser, nous qui sommes chrétiens, par le fait de se revêtir d'entrailles de miséricorde, à l'image de notre Père céleste. Qu'est-ce que ça signifie? Sans entrer dans les détails, mais il faut que l'amour dont le Père nous a aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ, soit le modèle de notre attitude vis-à-vis de notre prochain. Donc voyez, c'est pour ça que nous disions que nous devons avoir l'assurance d'être aimés de Dieu. Souvent, chez les charismatiques, on trouve une ferme assurance d'être aimé de Dieu, et d'une certaine manière, c'est bien d'avoir cette ferme assurance, mais d'une certaine manière, c'est une ferme assurance qui... Enfin, je dis les charismatiques, ça peut être aussi toutes sortes d'autres gens, hein, mais c'est surtout, ça sert pour notre propre consolation. C'est-à-dire que je vais mal, et je sais que je suis aimé de Dieu. C'est vrai, ça sert pour notre consolation, mais cet amour dont je suis aimé me sert surtout de modèle, après de consolation, de modèle pour jauger la façon dont j'aime mon prochain. Et le prochain, pour les chrétiens, c'est essentiellement et de façon privilégiée le prochain chrétien ou le prochain dans la famille. Alors évidemment, parfois, le prochain dans la famille n'est pas forcément chrétien. Nous allons y venir. Mais c'est pourtant un prochain sur lequel l'amour dont nous avons été aimés de notre Père, dont nous sommes aimés de notre Père, doit rejaillir, nécessairement, sous peine, eh bien, que notre christianisme ne soit qu'un christianisme de surface et ne soit pas un christianisme vivant. Que nous dit saint Paul? Il nous dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de modestie, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant mutuellement si quelqu'un a sujet de plainte contre un autre. Nous devons comprendre que non seulement notre prochain proche et privilégié se trouve dans notre famille et est constitué par les membres de notre famille, mais encore nous devons comprendre que nous devons nous comporter vis-à-vis d'eux selon l'homme nouveau, et non pas selon l'homme ancien, qui est mort au baptême, et dont certains soubresauts encore nous animent malheureusement, et c'est ce qu'on appelle le vieil homme, le vieil Adam, le moi, la triple concupiscence, ou encore la rémanence du péché originel. Nous devons nous comporter vis-à-vis de notre prochain privilégié, c'est-à-dire des membres de notre famille, selon l'homme nouveau, Alors vous allez dire, mais est-ce que nous ne devons pas nous comporter de cette manière aussi vis-à-vis de notre prochain plus éloigné? Je vais vous dire, bien entendu, mais d'une façon bien plus précise, vis-à-vis des membres de notre famille, pourquoi? Eh bien parce que bien souvent, quand on se sent à l'aise, quand on est dans notre entre-soi, quand on est avec nos frères, quand on est avec les membres de notre famille, on se laisse aller, on baisse la garde, et on se laisse aller à manifester les œuvres de la chair sous prétexte que les gens ne nous jugent pas. Vous voyez? Sous prétexte que les gens sont chrétiens comme nous. Sous prétexte que nous avons cette solidarité qui va faire que à la moindre altercation ou disons la moindre défaut, on sait très bien que notre famille nous aime et ne va pas aller claironner ou se plaindre à qui veut l'entendre de nos divers défauts. Vous voyez, c'est une chose qui arrive bien souvent. On baisse la garde parce qu'on est entre nous. Alors, cela se comprend, il est normal, et j'espère que c'est un cas, c'est le cas, mais il est normal de se sentir en sécurité dans sa famille. On sait très bien que normalement, dans sa famille, tout ce qui passe dans la famille reste dans la famille d'une certaine manière, et que les faiblesses, les péchés, etc., c'est-à-dire qu'on lave son linge sale en famille, comme on dit. Encore faut-il le laver réellement, mais disons que normalement, ça se fait. Il y a une, nous devons être, nous, j'espère que nous pouvons être en confiance dans la famille. Mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi, ce n'est pas une raison pour se laisser aller à l'homme charnel. Nous devons comprendre que si nous devons manifester les œuvres de la foi vis-à-vis de notre prochain à l'extérieur qui nous juge, qui nous est hostile, etc., nous devons a fortiori les manifester vis-à-vis de notre prochain qui est, disons, plus complaisant du point de vue naturel, notre prochain familial. Si nous approfondissons un petit peu tout cela, nous allons le voir, vous allez comprendre que cela est absolument fondamental. Nous ne devons pas nous laisser aller, sous prétexte que nous sommes en famille, à ne pas nous comporter comme des chrétiens. Nous devons prendre conscience que la manifestation de l'homme nouveau, c'est-à-dire de ce que nous sommes réellement dans le Christ, et tel que nous sommes par le baptême, tel que nous sommes aimés de Dieu, eh bien, se manifeste, nous dit saint Paul, par la bonté, par l'humilité, par la modestie, par la patience. Ce sont les caractères du vrai chrétien. Si nous n'avons pas ces manifestations vis-à-vis des gens de notre famille, quels qu'ils soient, mais vis-à-vis des gens de notre famille, eh bien, nous ne pouvons pas être certains d'être aussi chrétiens que nous le croyons. Nous pouvons, comme nous le verrons, avoir les rodomontades du chrétien, mais si nous n'en avons pas les marques, le caractère, alors il se trouve que, quelque assurés que nous soyons d'être chrétiens, et encore une fois, nous ne nions pas que nous soyons chrétiens, mais n'ayant qu'une foi morte, sans œuvre, nous ne pouvons pas nous imaginer que Dieu nous aime comme il pourrait nous aimer si nous étions conformes à son Fils. Il nous aime d'un amour spécial parce que nous sommes baptisés, donc il ne va pas nous rejeter dans les ténèbres extérieures sous prétexte que nous ne sommes pas parfaits, mais si nous nous aimons tel que Dieu ne peut pas nous aimer, alors nous conduisons en quelque sorte Dieu à ne plus pouvoir nous aimer tel qu'il veut nous aimer. Nous ne mettons pas par cela Dieu en échec, nous manifestons simplement que nous sommes, en tant qu'ingrats, nous sommes des rameaux secs, moribonds, et en passe d'être coupés. Que Dieu nous ressuscite, bien entendu. Si les caractères du vrai chrétien que nous avons mentionnés, donc très rapidement bonté, humilité, modestie, patience, ne sont pas manifestés en premier dans la famille, eh bien, il se trouve que bien souvent, comme nous n'allons les manifester que vis-à-vis des gens de l'extérieur, nous allons nous exposer au mépris de nos familiers, parce que le christianisme va leur apparaître chez nous comme le moyen, en quelque sorte, de ne pas subir en quelque sorte de plein fouet l'hostilité des étrangers. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que bien souvent, le chrétien est très charnel à l'intérieur de sa famille, et qu'il a une apparence de chrétien à l'extérieur, ce qui lui permet en quelque sorte de résister à certaines pressions, ce qui lui permet de se pratiquer. Imaginez quelqu'un qui serait très orgueilleux à l'intérieur de sa famille, on ne peut absolument rien lui dire, on ne peut faire aucune remarque, et cette même personne serait très humble vis-à-vis des gens de l'extérieur. Est-ce que ça serait de l'humilité? Imaginez que un mari, par exemple, pour pas toujours prendre les mêmes exemples, un mari auquel sa femme, en toute charité, en toute discrétion, en toute modestie, ne pourrait jamais exposer certaines remontrances, certaines choses à dire, mettre le doigt sur certaines imperfections, ce mari se montre donc inflexible, imbu de son autorité, autorité qu'il a bien entendu, mais imbu, orgueilleux, et qui, en même temps, au travail, par exemple, serait le premier à reconnaître ses fautes, le premier à reconnaître sa cheftaine d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, à peu près tout le monde en a. Lui dit quelque chose, il s'incline, il dit « Oui, c'est vrai, vous avez raison, je vais faire attention. » Quel regard sa femme va poser sur lui? Il va dire « Il s'abaisse, il est humble, il est chrétien, entre guillemets, soi-disant chrétien. » Mettons, il a les marques d'un certain christianisme, il a une certaine capacité d'avoir un retour sur soi et de se perfectionner vis-à-vis des gens du monde qui sont de purs mécréants. Quant à moi qui suis son épouse et sa sœur dans le Christ, il montre vis-à-vis de moi une dureté, un orgueil qui sont très peu chrétiens. Vous voyez? Imaginez que, parce qu'il faut prendre un peu pour tout le monde, imaginez qu'une femme soit absolument rebelle à son mari, insoumise à son mari, elle mène sa religion comme elle veut, sa vie chrétienne comme elle veut, elle ne soit absolument pas soumise à son mari, son mari ne peut absolument rien lui dire. Donc, sous prétexte qu'elle est chrétienne et que son mari est peut-être à un certain côté charnel, et donc du coup elle sait mieux que lui, etc. Et cette femme qui sera, si elle a le malheur de travailler, eh bien, tout à fait soumise à ses chefs, à ses supérieurs, dans le monde. Que va penser son... Et on va dire, ah ben c'est parce qu'elle est chrétienne, c'est une bonne employée, que sais-je, hein, bon, malheureusement ça arrive souvent, c'est une personne qui a des qualités, et effectivement elle est connue comme chrétienne. Que va penser son mari? N'importe quel chef, n'importe qui est capable de faire entendre raison à ma femme, mais dans le foyer, sous prétexte qu'elle est chrétienne comme moi, elle ne m'est pas soumise. Tout ceci engendre le mépris. Un mépris bien mérité, il faut le dire. Malheureusement, malheur à celui qui méprise, surtout si c'est une femme qui méprise son mari ou des enfants qui méprisent leurs parents, ça c'est une chose terrible, puisqu'ils sont coupables d'un péché très très grave. Mais malheur à celui qui se fait mépriser. Voyez, être humble, être chrétien avec les étrangers et être païen avec ses familiers, c'est s'attirer un mépris, sinon légitime, du moins très compréhensible. La vérification de notre charité, mes très chers frères, ne peut se faire qu'au sein de la famille. Mon chef à l'extérieur ou mon collègue à l'extérieur m'injurie, j'aurais bien envie de le trucider, mais je ne peux pas. Parce que certaines raisons m'en dissuadent. Donc, je vais avoir une attitude chrétienne vis-à-vis de lui, et je vais dire, je lui pardonne pour l'amour de Dieu. Bon, après tout, nous avons fait notre devoir de chrétien, nous avons réagi comme un chrétien. Mais à l'intérieur de ma famille, quelqu'un m'insupporte, je suis impatient vis-à-vis de lui. Quelqu'un m'offre un sujet de plainte contre lui. Je ne lui pardonne pas. Si je ne lui pardonne pas à l'intérieur de ma famille, si je ne pardonne pas à l'intérieur de ma famille, tout ce qui sera, si je suis incapable de, en tant que chrétien, de pardonner à l'intérieur de la famille, du cadre familial, fera qu'il sera extrêmement probable que je serai incapable de pardonner réellement selon Dieu à l'extérieur du cadre familial. Et que toutes mes bonnes actions extérieures ne seront jamais que de la crainte déguisée en vertu. Je ne tue pas mon prochain parce que je n'ai pas envie d'aller en prison. Alors que, au sein de ma famille, si quelques sujets de plainte s'élèvent et que je ne pardonne pas, Alors je manifeste véritablement que je ne suis pas chrétien, selon l'esprit. La vérification de notre charité, c'est donc, dit saint Paul, le pardon. Nous ne devons pas, mes très chers frères, au sein de la hiérarchie familiale qui doit être scrupuleusement respectée, nous ne devons pas néanmoins nous emparer du prétexte de la justice pour éviter de discerner, au moins dans notre cœur, dans le secret de notre examen de conscience. Nous ne devons jamais nous emparer du prétexte de la justice pour nous dispenser de discerner la fonction de châtiment qu'une offense joue vis-à-vis de notre vis-à-vis de nous-mêmes pour notre sanctification. Un de mes enfants m'a manqué de respect. Il m'a dit oh ben finalement papa tu n'es qu'un hypocrite. Alors il ne doit pas parler comme cela. C'est une violation du quatrième commandement. Quand bien même ce serait vrai, il n'a pas à le dire, il n'a pas à mépriser son père, il n'a pas à lui faire de remontrance. Le père, que doit-il faire? Il doit corriger cet enfant qui lui manque de respect. Mais à l'intérieur de lui-même, que doit-il dire? Il doit dire, non, c'est vraiment, je me demande comment, moi qui suis si parfait, j'ai pu avoir un enfant comme ça. Au lieu de commencer à se dire si c'est vraiment un enfant qui vient de lui, il faudrait qu'il se dise, mon Dieu, je reconnais que par-delà l'injure, par-delà le péché que je dois réprimer, corriger chez cette personne qui m'a été subordonnée de par votre volonté, puisque c'est mon enfant. Je reconnais que par-delà son péché, il y a quelque chose de vrai, il y a un châtiment pour, effectivement, probablement, mon hypocrisie ou quelque chose de mauvais en moi. Alors vous allez dire, oui, mais si tout le monde sait qu'on fait comme cela, donc du coup, ça veut dire que tout le monde va dire ces quatre vérités à son prochain au sein de la famille, et en disant surtout, ne m'en voulez pas, ne m'en veuillez pas, parce que je ne fais qu'exercer la réprimande fraternelle et. Vous savez, mes très chers frères, il y a eu des ennemis du peuple d'Israël qui sont venus au pied des murailles de Jérusalem et qui ont dit: Dieu m'envoie pour vous châtier et pour châtier vos péchés. Ce n'était pas faux. Ça n'empêche pas que ceux qui se sont targués le bâton que Dieu a utilisé et qui s'est enorgueilli de la main qu'il utilisait, lui-même a été brisé. Donc faisons très attention, ne violons pas la hiérarchie familiale, puisque nous parlons de la famille, en disant tout ce que nous voulons dire, en disant de toute façon c'est bon pour sa sanctification, parce qu'il se peut que, effectivement, cela soit très bon pour la sanctification de notre prochain, mais que nous soyons brisés parce que nous avons mal agi. Lorsqu'une femme manque de respect envers son mari, pour une raison ou pour une autre, et qu'elle lui dit quelque chose qui est vrai, mais qu'elle le lui dit sans charité, sans modestie et sans respect, le mari n'a plus qu'à s'humilier devant Dieu dans son cœur en disant: Ma foi, c'est vrai, je sème, je récolte ce que j'ai semé. Mais il se trouve que cette femme va être châtiée par Dieu, et peut-être aussi par son mari. Elle va être châtiée par Dieu parce que ce n'est pas comme cela. Vous voyez, l'enfant qui est insolent envers son père, sous prétexte que son père est imparfait, sera châtié par Dieu et devra être châtié par son père. Voyez, et vice-versa, on pourrait dire la même chose, un laïc qui reprend durement un clerc, sans charité, sans modestie, sans respect, dit peut-être quelque chose de juste, parce que le clerc est peut-être coupable, mais la manière dont ça a été dit attire la malédiction sur celui qui a mal dit. Donc voyez, mes très chers frères, la véracité de notre christianisme tel que nous avons à le pratiquer vis-à-vis des gens de l'extérieur est vérifiée et prouvée par la pratique de notre christianisme vis-à-vis des gens de l'intérieur, c'est-à-dire les gens de la famille, de la communauté, les gens de la famille de Dieu, ou grande ou petite, la famille. Vous voyez? Les gens de la famille. Si je ne me comporte pas en chrétien au sein de ma famille, je puis être certain que je ne suis qu'un hypocrite à l'extérieur. On ne peut pas être chrétien vis-à-vis des mécréants si on n'est pas chrétien vis-à-vis des chrétiens qui forment notre famille. Nous devons donc, lorsque nous sommes offensés au sein de la sphère familiale, la sphère domestique, nous devons bien sûr veiller à ce que l'ordre soit respecté, car aucune violation de l'ordre n'est jamais acceptable. Néanmoins, nous devons discerner dans notre cœur la fonction de châtiment qu'une offense joue vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos péchés. Nous récoltons ce que nous avons semé. Si une femme est insolente vis-à-vis de son mari, c'est pas forcément parce qu'elle a un mauvais caractère. Il se peut aussi qu'elle ait un mauvais caractère, qu'elle a été mal élevée, etc. Et ça, c'est un autre problème. Mais il se trouve que si elle est insolente vis-à-vis de son mari, ou si elle est moqueuse vis-à-vis de son mari, c'est peut-être que son mari ne se comporte pas selon la dignité que Dieu demande de lui. Vous voyez, la femme ricane constamment de son mari, et que son mari aime pour ses commodités se balader en marselle et avec un vieux short dans la maison, sous prétexte qu'il n'est pas vu de l'extérieur, et que il faut pas non plus qu'il dise, et alors le respect que la femme doit à son... rendez-vous respectable. Vous voyez, si un père est méprisé par ses enfants, et que c'est parce qu'il se promène avec des casquettes à l'envers, avec des t-shirts débiles, et qu'il se comporte comme un jeune alors qu'il a déjà un certain âge et que ses enfants sont déjà capables de s'apercevoir que leur père est un débile mental, ce n'est pas... Bien sûr que les enfants transgressent le quatrième commandement, je dirais même que bien sûr que ces enfants ne seront jamais heureux ici-bas, tant qu'il continue à transgresser ce quatrième commandement, et après avoir cessé de transgresser ce quatrième commandement, tant qu'ils n'ont pas fait pénitence pour le fait de l'avoir transgressé. Bien sûr, c'est vrai, mais lui est un imbécile qui a appelé le mépris sur sa tête, et qui, en quelque sorte, est responsable, peut-être plus que ses enfants, du péché de ses enfants. Celui qui n'assume pas son rôle et qui se rend méprisable, d'une certaine manière... pousse son subordonné à le mépriser. Le subordonné est responsable de son mépris, c'est pour cela que Dieu le châtiera, mais celui qui l'a poussé à le mépriser est aussi responsable, et c'est pour cela que Dieu le châtiera aussi. La vérification de notre christianisme au sein de la famille tient à notre capacité à pardonner. Pardonner ne veut pas dire être laxiste. Pardonner ne veut pas dire, par exemple, un père se rend compte ou une mère se rend compte qu'ils sont imparfaits, que leurs enfants leur font remarquer. Ça ne veut pas dire que les parents doivent s'incliner devant les enfants en disant « Oui, vous avez raison, je suis une ordure, je suis un imparfait, je suis une pauvre type. » Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça, ce sont des choses que l'on fait devant Dieu. Vous voyez, il faut, mais en revanche, il faut, alors comment se sortir de ce mauvais pas? Parce que c'est un mauvais pas dans lequel on est bien souvent. Eh bien, il faut travailler sur deux fronts en quelque sorte, et en deux temps, mais concomitants. C'est-à-dire qu'il faut faire cesser le motif objectif de la mauvaise action chez les subordonnés, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de se rendre méprisable, il faut arrêter de se rendre, à mettre un terme aux faiblesses qui poussent les enfants, etc., dans la pente, et d'un autre côté, il faut, avec objectivité et justice, punir, réprimer l'insolence, tout en évitant et en s'interdisant de se venger. C'est-à-dire que si, pour reprendre l'exemple que nous avons donné, qui est un exemple caricatural, qui j'espère n'existe pas, mais si l'enfant dit à son père « Mais tu es complètement ridicule avec la façon dont tu t'accoutres », il faut que cet enfant soit châtié, mais il ne faut pas que le père se venge d'avoir été vexé, parce qu'il est vraiment ridicule. Donc il faut que cet enfant apprenne à respecter son père, et son père l'y aidera, donc en le frappant, et selon l'Écriture, et d'un autre côté, en changeant d'apparence, de telle sorte que cet enfant puisse comprendre que, objectivement, on n'a pas à se moquer de son père, et que l'exemple de Cam et de Canaan soit un exemple pour tous les enfants, c'est-à-dire que quoi que fassent les parents, on ne doit pas se révolter contre eux, même si on peut prendre des fois des distances, etc., c'est pas la question, mais on ne peut pas se moquer. On ne peut pas manquer du respect qu'on doit aux parents. S'il faut se séparer pour diverses raisons très graves, eh bien, il faut le faire avec respect. Ne serait-ce que parce que si on ne le fait pas, eh bien, il se trouve que nous ne pourrons pas être heureux. Et combien de personnes ai-je déjà vues au cours de mon ministère qui étaient dans l'incapacité chronique d'être heureux ici-bas, c'est-à-dire d'avoir la bénédiction divine sur leur propre famille, parce qu'ils étaient dans la rage, le mépris et le déshonneur vis-à-vis de leurs parents. Alors vous allez dire, c'est très cruel. C'est très cruel, mais c'est très vrai. Il faut s'humilier donc devant Dieu, tout en faisant cesser avec l'aide de Dieu, les raisons pour lesquelles nos prochains au sein de la famille nous offensent, autant qu'on le peut, bien entendu, des fois ils nous offensent parce qu'ils ne le savent pas ou on ne peut pas faire autrement. Mais il se trouve que nous devons donc nous corriger, nous humilier devant Dieu, rétablir et maintenir la discipline et la justice, mais objectivement, c'est-à-dire sans nous venger. Il ne faut jamais, 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 jamais que les inférieurs ressentent de la vengeance dans la correction que le supérieur est obligé de leur administrer, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Eh bien parce que sinon, il y a captation de l'honneur dû à Dieu, et de l'obéissance due au commandement par une personne qui, de toute façon, est fautive. Et si vous voulez discréditer le christianisme aux yeux de vos enfants, aux yeux de votre épouse, etc., vengez-vous dans les actions de réprimande que vous avez à mener, et c'est la meilleure façon pour faire assimiler la loi de Dieu à votre moi, à votre ego, à votre orgueil, et la discréditer à tout jamais aux yeux de ceux que Dieu vous a confiés. Voilà une chose qui est terrible à faire et qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais faire. Pour être, pour user de la pédagogie qui doit être, qui doit présider dans la famille, surtout quand les enfants sont petits, eh bien, il nous faut, pour user d'une bonne pédagogie, il nous faut toujours avoir à l'esprit la pédagogie divine, c'est-à-dire que les parents tenant le rôle de Dieu vis-à-vis de leurs enfants, il faut qu'ils prennent conscience que la relation qu'ils ont avec leurs enfants doit être une illustration, ou est une illustration, ou doit être une illustration de leur propre vie et de leur propre relation vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils voient un de leurs enfants faire mal faire, ils doivent se dire, eh bien, je comprends que, ils doivent faire le parallèle avec leur propre vie, ils doivent dire, je comprends que la manière dont cet enfant, dont mon enfant a de se comporter mal vis-à-vis de moi, illustre ou me donne une illustration de ma propre façon de mal me comporter vis-à-vis de mon Père Céleste. La question qui se pose, c'est comment mon Père Céleste me corrige-t-il, lui qui est si miséricordieux et qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive? Eh bien, je vais donc appliquer, mutatis mutandis, la même pédagogie, la pédagogie que Dieu m'applique, dont Dieu use envers moi, je vais l'appliquer à mes enfants. Si nous pouvions vivre dans ce parallélisme constant, eh bien, ceux qui sont en position d'autorité agiraient véritablement comme les lieutenants et les vicaires du Christ et de Dieu pour leurs subordonnés. Il faut de la fermeté et il faut de la crainte de Dieu. Nous devons comprendre que si nous devons pardonner et si le pardon est une est la est la, est la mesure de notre véritable de Dieu, de la vérité, de la réalité de notre christianisme, c'est parce que en pardonnant, nous faisons aussi pénitence pour nos péchés. Toute offense que nous recevons au sein de la famille nous est plus cuisante parce qu'elle vient de personnes qui nous tiennent de plus près et donc que nous aimons plus. Eh bien, il faut que nous utilisions ces offenses pour faire pénitence de nos imperfections et de nos péchés passés et présents. Les parents doivent être en toute chose le modèle de leurs enfants, comme notre Seigneur Jésus-Christ est notre modèle, le modèle des chrétiens. Voilà comment nous devons nous comporter vis-à-vis de notre prochain qui est le prochain privilégié qui est les membres que sont les membres de notre famille. Allons maintenant plus loin, c'est notre deuxième point, allons un peu plus loin et voyons la charité dans la famille, comment cela se manifeste très particulièrement, même si nous en avons déjà dit quelques mots. Avant toute chose et par-dessus toute chose, dit saint Paul, ayez la charité qui est le lien de la perfection. La charité, pour exister et subsister, suppose un ordre. La charité, c'est, si vous le voulez, l'eau. L'ordre, c'est les différents paliers de la cascade qui fait que l'eau passe d'un niveau à l'autre et va de haut en bas. Pour reprendre une image de Saint-Denis. La charité, pour exister et subsister, suppose un ordre. Dans le graduel, il est dit: Il est une chose que j'ai demandée au Seigneur, et je la demanderai sans cesse, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Heureux ceux qui habitent dans votre maison, Seigneur. Habiter dans la maison du Seigneur, la famille faisant partie de l'Église, l'Église étant le temple de Dieu, habiter dans la maison du Seigneur, c'est donc être dans la station, au niveau de l'ordre que nous a assigné Dieu par le biais de la nature et de la grâce, et de l'Église. Je dis, pour clarifier ce que nous disons, c'est pour expliquer, c'est très simple. Dieu a fait de moi un homme et il m'a donné le sacrement de mariage. Donc, je dois être dans l'ordre assigné à la nature masculine et je dois être dans l'ordre assigné à la nature du père de famille, de l'époux du père de famille. Même chose pour les femmes, les mères de famille, etc. Et même les enfants qui sont relativement dans un état, disons, transitoire, puisqu'ils sont appelés à grandir. Néanmoins, ils doivent se dire, Dieu m'a fait naître dans cette famille de chrétiens, je dois donc me comporter, tant que je suis dans mon enfance, bien de l'enfant qui peut se dire ça, eh bien, comme un chrétien, obéissant à mes parents, comme notre Seigneur Jésus-Christ enfant était soumis à son père et à sa mère. Heureux ceux qui habitent dans la maison du Seigneur, eh bien, mes très chers frères, cela signifie non pas heureux ceux qui sont chrétiens à leur façon et qui font ce qu'ils veulent selon leur petite idée de leur religion, heureux ceux qui sont chrétiens selon l'ordre que Dieu leur a assigné. Dans l'épître du dimanche, dans l'octave de l'Épiphanie, qui est en mémoire, nous lisons ceci, c'est toujours saint Paul qui parle. Je vous exhorte donc, tous, en vertu du ministère qui m'a été donné, à ne pas chercher à être plus sage qu'il ne convient, mais avoir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, de même que l'unité de notre corps est faite de plusieurs membres et que tous ses membres n'ont pas la même fonction, de même, quoique nombreux, nous ne sommes qu'un seul corps dans le Christ, étant tous les membres les uns des autres en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous devons comprendre, mes très chers frères, que nous ne pouvons être heureux dans notre famille, et a fortiori dans l'Église, puisque notre famille est une cellule de l'Église en réalité, nous ne pouvons être heureux dans notre famille que dans la mesure où nous nous y comportons selon notre ordre, selon l'ordre des choses tel que Dieu le veut. Nous ne devons pas chercher à être plus que ce que nous sommes. Alors vous allez dire, oui, mais le problème, voyez-vous, c'est que moi je suis dans une famille, je n'ai pas la chance, la grâce d'être dans une famille chrétienne. Je suis le seul chrétien dans ma famille. Et c'est bien difficile. Alors il faut que je joue plusieurs rôles à la fois. Le rôle de membre de la famille, évidemment, puisque j'aime les membres de ma famille dans laquelle je suis. Mais il se trouve aussi que je dois jouer le rôle d'apologiste, de chrétien, de défenseur de l'Église, etc. Alors attendez, ne mélangez pas tout. Nous ne devons vouloir, nous disent les auteurs moralistes, nous ne voulons vouloir être que ce que Dieu veut que nous soyons. C'est-à-dire que nous devons agir selon l'ordre de notre vocation. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je vais vous dire des choses, mes très chers frères, qui sont très facilement applicables. Combien d'occasions manquées, peut-être pour toujours, ont-elles été manquées par précipitation, par immodestie, par désordre, par un désordre que l'on a cru nécessaire? Et je pense spécialement aux jeunes qui se convertissent, qui sont encore avec leurs parents, dans leur famille, et qui passent de l'état de jeune moderne, donc de à peu près de débile, mondain, etc., à l'état de super apologiste de la foi catholique, et parfois en quelques semaines, en quelques mois, quelques années, ça dépend, de telle sorte que eux qui étaient la plaie de leurs parents, qui leur cassaient les pieds, qui leur demandaient sans cesse de l'argent pour aller en boîte de nuit, les voilà qui sont en train de les moraliser, qui sont en train de leur dire qu'ils vivent dans d'utiliser toutes sortes de mots qui sont peu décents par rapport à des parents. Quand bien même les parents ne seraient pas mariés, ce n'est pas une raison pour ces enfants convertis de leur jeter à la figure des mots obscènes et autre chose, sous prétexte que, effectivement, dans l'objectivité de leur situation, ils déplaisent à Dieu. Combien, mes très chers frères, combien d'occasions manquées, combien de gens qui probablement ne se convertiront jamais, je parle du point de vue humain, parce qu'ils ont été brusqués par, finalement, le désordre dans lequel se trouve la personne en question. Vous allez dire, mais oui, effectivement, c'est mon cas, je suis un jeune, je viens de me convertir, mes parents sont de purs mécréants, et moi, alors, je brûle du zèle de les convertir aussi, que ça serait une tellement belle chose. Est-ce que vous vous comportez vis-à-vis de vos parents comme Dieu s'est comporté vis-à-vis de vous? Vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes patient? De plus, en tant qu'enfant, vous devez le respect à vos parents. Donc tout ce que vous allez faire et qui contrevient au respect dû aux parents, que le parent soit un mécréant ou soit un saint, tout ce qui contrevient au respect dû aux parents et qui est fait quand bien même ce serait pour évangéliser, est fait pour le diable. C'est-à-dire que quand vous insultez vos parents en leur disant que ce sont de sales gauchistes dégénérés, des 68ards abrutis, qui sont complètement phagocytés par le système et qu'ils ne se rendent pas compte que le catholicisme est le seul anticorps de la France, etc. Eh bien, loin d'essayer de leur ouvrir les yeux, avec ou sans la grâce de Dieu d'ailleurs, il se trouve que vous leur manquez de respect. Et quand bien même ce seraient des 68ards dégénérés, vivant dans la concubinage, etc., vous leur manquez de respect, donc il est absolument et mathématiquement et nécessairement impossible que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Donc, vous êtes en train de les blinder contre le christianisme. Alors vous allez dire, oui, mais alors ça veut dire qu'il faut simplement voilà, que je subisse leur impiété, etc. Nous ne disons pas cela, car nous savons par ailleurs qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc si vos parents vous contraignent à aller en boîte de nuit, vous pouvez leur dire que vous ne pouvez pas le faire et que vous êtes désolé de devoir ne pas leur obéir parce que vous devez obéir à la loi de Dieu et aux maximes de l'Évangile avant tout. Mais c'est quand même des choses, quand même, surtout à notre époque, c'est quand même assez rare. La plupart du temps, les parents laissent absolument faire à leurs enfants tout ce qu'ils veulent. Donc, si les enfants qui ont été jusque-là des enfants rebelles, insolents, etc., tout d'un coup deviennent des enfants comminatoires avec des discours qui intiment à leurs parents l'ordre de changer de voie, sinon ils vont être damnés, ce sont des enfants, mes très chers frères, tout simplement qui manquant de respect envers leurs parents, détournent de leur personne même la bénédiction divine. Et les parents vont se dire, mais finalement, eh bien, mon enfant, il est rebelle, sauf qu'avant il était rebelle et puis il fumait de la drogue, et puis maintenant il est rebelle et il va à la messe. Mais c'est toujours un rebelle. Et la réalité, c'est que c'est vrai. Parce que bien souvent, et cela arrive très souvent, et disons c'est une constatation sociologique, les parents, c'est-à-dire les générations qui ont des enfants aujourd'hui, sont dans un tel état de délabrement, évidemment, que lorsque les enfants se convertissent, ils se rendent compte effectivement que ça fait déjà un certain nombre de générations que tout est détruit, et systématiquement détruit, et que si c'est pas fait par des gens qui inventent la destruction, ce sont des gens qui la mettent en pratique. Donc effectivement, il peut y avoir un sentiment de révolte pour tout le temps perdu. Mais ce sentiment de révolte est illégitime. Pourquoi? Eh bien déjà parce qu'il ne fait pas la part aussi grande qu'elle doit l'être à la reconnaissance. Au lieu de s'en prendre à vos parents et à vos grands-parents d'avoir été des gauchistes et d'avoir favorisé la décadence de la France, dites plutôt, mon Dieu, comment se peut-il que, étant né dans une telle famille de gauchistes, vous m'ayez ouvert les yeux? Je serai comme eux si vous ne m'aviez pas donné votre grâce. Alors vous allez dire, mais c'est pas ça qui va les convertir. Qu'est-ce que vous en savez, petit insolent? Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne savez rien. Des parents qui voient leurs enfants rebelles, débauchés, drogués, etc., qui tout d'un coup, insolents, tout d'un coup deviennent respectueux. Tout d'un coup, sans collaborer à la mondanité, et en se mettant un petit peu en retrait par rapport aux activités mondaines des parents, mais tout d'un coup, des enfants qui deviennent traitables, des enfants qui deviennent respectueux, des enfants qui deviennent serviables. Vous allez dire, j'ai déjà essayé, mais on m'a dit, ah ben voilà, du moins la religion, ça t'a calmé, maintenant tu sers à quelque chose. Alors, et ça m'a mis en colère parce que du coup, j'ai l'impression que le christianisme me met dans une position qui me transforme en larbin de tout le monde. Si votre christianisme fait de vous le larbin de tout le monde, comme vous le dites, c'est peut-être aussi l'occasion qui vous est donnée de faire pénitence pour toutes les fois où vous avez été insolent, ou toutes les fois où vous n'avez pas aidé vos parents, toutes les fois où vous leur avez manqué de respect. Vous voyez, ils se moquent de la religion en moi. Ne vous inquiétez pas, ils ne vous ont pas attendu pour se moquer de la religion. Et ce qui vous blesse en vous, c'est qu'ils ne vous respectent pas pour ce que vous êtes, c'est-à-dire le porte-parole de l'Église auprès d'eux, Dieu auprès d'eux. La réalité, c'est que c'est Dieu lui-même qui, voulant vous perfectionner, vous soumet à la moquerie de vos parents pour vous faire faire pénitence de toutes les moqueries, toutes les insolences, de toutes les insolences que vous avez, dont vous avez fait preuve vis-à-vis d'eux. Autre exemple, les époux, l'un ou l'autre époux qui se convertit et qui devient insupportable avec son conjoint. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que cela va attirer le conjoint à la religion? Il faut que les femmes soient soumises, comme dit Saint Paul, il faut que les femmes soient soumises à leur mari infidèle, de telle sorte que par leur soumission, leur pudeur, leur modestie, elles les attirent presque insensiblement à la foi. Si la femme devient l'apôtre de la famille, qu'elle tanne son mari, elle lui fait voir toutes sortes de vidéos, de propagande, elle lui impose toutes sortes de choses, elle lui fait des prédications, comment est-ce que vous voulez que son mari se convertissent, il va dire, ben non, si moi qui suis mécréant, elle me prêche déjà, alors que je ne suis pas catholique, et qu'est-ce que ça va être quand je serai catholique alors? Ça va devenir mon curé. Tandis que s'il voit une femme qui était un peu libre, qui était un peu féministe, qui était un petit peu comme le sont toutes les dames d'aujourd'hui, qui était un peu féminine, un peu libre, qui faisait qui n'en faisait qu'à sa tête, qui n'écoutait quasiment jamais son mari, parce que, après tout, on est des égaux, etc., qui tout d'un coup, par son christianisme, devient humble. Elle devient raisonnable, elle ne cause plus de dépenses et modérée dans la famille, dans le budget, elle devient traitable, elle devient, vous voyez, même si son mari l'a fait un peu marcher comme ça parce qu'il la charrie un peu, comme on dit, à cause de sa conversion, et si elle est humble, si elle se dit, ben, mon mari maintenant m'humilie un petit peu parce que je suis devenue humble et modeste. Et c'est pour faire pénitence. Il abuse un peu de mon christianisme. C'est Dieu qui me donne de faire pénitence pour toutes les fois où j'étais insolente envers mon mari. Alors, véritablement, quelque chose, je ne dis pas que vous allez les convertir, je dis que quelque chose devient possible. Et cette chose, c'est l'unique nécessaire. C'est la bénédiction de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et puis peut aussi donner cet autre exemple, c'est-à-dire que bien souvent, comme on se convertit, aujourd'hui on se convertit au catholicisme vraiment pour toutes les pires raisons du monde. Donc la plupart du temps, comme il se trouve que quand même la grâce de Dieu, mine de rien, même si on ne s'en rend pas compte, agit quand même un peu toutefois, il se trouve qu'on devient chrétien, et puis on a quand même vaguement l'impression qu'il y a une morale, qu'il y a un bon Dieu, qu'il y a un état de grâce, etc. Donc du coup, on fait des efforts. Mais on se dit, mais l'essentiel, c'est que les gens deviennent patriotes, deviennent nationalistes, deviennent conscients des dangers du mondialisme, dangers etc. Et donc, qu'est-ce que vous allez réussir à faire? Vous allez dire, bon, ben, la grâce de Dieu, c'est Dieu, moi je m'en occupe pas, c'est Dieu qui s'en occupe. Vous allez réussir à faire changer d'opinion politique vos proches. Ça arrive assez souvent, parce qu'aujourd'hui, tout le monde change d'opinion. Et il se trouve que ces gens-là, parce que vous leur aurez encore en quelque sorte caché les vraies raisons pour lesquelles il faut devenir chrétien, ces gens-là peuvent très bien vous contourner, devenir beaucoup plus nationalistes que vous, et devenir néo-païens, parce que contrairement à vous, ils vont comprendre que le christianisme n'est jamais qu'une sorte d'entreprise de judaïsation des peuples, tandis que si on adore Thor et Odin et Apollon et Zeus et compagnie, au moins là, on est des vrais hommes et on n'est pas des demi-juifs. Résultat, vous aurez réussi à faire changer d'opinion vos proches dans votre famille, ce qui n'est aujourd'hui encore une fois pas très difficile, vous aurez réussi à leur faire changer d'opinion sans les faire devenir chrétiens et tout en les blindant contre le christianisme, puisque par ailleurs, il se trouve que pour les besoins de la propagande et de leur conversion, donc vous aurez utilisé toutes sortes d'auteurs qui sont marcionnistes, qui sont tout à fait hideux du point de vue de la religion et qui sont même nocifs pour la foi. Bravo le résultat. Il n'y a qu'une seule façon de se comporter quand on est dans une famille où dont tous les membres ne sont pas catholiques, ne sont pas chrétiens. C'est de se comporter comme on se comporterait si tous les membres étaient catholiques, c'est-à-dire selon son ordre, selon sa place, selon l'ordre assigné à chacun par la Providence, quelles qu'en soient les conséquences. Parce que nous ne servons pas une idéologie, mais un Dieu vivant. Et si nous nous mettons en position pour être bénis par ce Dieu vivant, ne vous inquiétez pas que non seulement il est vivant, mais aussi il est généreux. En revanche, si nous croyons être plus intelligents que lui et que nous croyons que le désordre peut servir à l'ordre, alors finalement, nous ne valons pas mieux que notre prochain mécréant, et nous sommes peut-être même plus mécréants que lui sans le savoir. La profession du christianisme n'est pas un moyen de se démarquer, un moyen de dominer, de prendre sa revanche. C'est un moyen de faire pénitence pour ses péchés, d'arrêter de pécher et d'arrêter d'empêcher la voie à la grâce de Dieu pour notre prochain. Et que la paix est faite régner, dit saint Paul, c'est notre troisième et dernier point, est faite régner dans vos cœurs la paix du Christ. Le diable a sa paix comme le Christ a sa paix, nous dit un auteur. La paix du diable unit les enfants du siècle contre notre Seigneur Jésus-Christ et ses serviteurs. La paix du Christ unit les chrétiens contre le monde et ses maximes. Pour obtenir et conserver cette paix, mes très chers frères, il faut nécessairement que nous soyons non seulement dans l'ordre, mais dans la tranquillité de l'ordre. C'est-à-dire que vous êtes dans l'ordre, vous êtes un enfant qui est converti par la grâce de Dieu et qui est au milieu d'une famille extrêmement gauchiste. Eh bien, il faut que vous soyez un enfant obéissant, respectueux, et que vous ne soyez pas quelqu'un qui soit dans le désordre. Vous êtes une épouse, un époux, dont l'époux, l'épouse, n'est pas encore converti. Il faut que vous soyez un bon époux, une bonne épouse, dans l'ordre, de telle sorte que par votre tranquillité, que par la paix du Christ règne en vous, et que la bénédiction de Dieu puisse s'immiscer et venir par vous dans votre famille. Faire son devoir pour l'amour de Dieu, c'est ça la tranquillité de l'ordre. Faire son devoir pour l'amour de Dieu, avec perfection, autant que cela nous est possible, mais il faut le faire avec perfection, sans se laisser troubler par les oppositions, les échecs, etc., sans se laisser troubler par les moqueries. Tout d'un coup, cette épouse qui caquetait, cette épouse qui était insolente, cette épouse qui portait la culotte, eh bien, tout d'un coup devient humble, soumise. Évidemment, son mari, qui n'a pas encore les grâces pour être un homme selon le cœur de Dieu, va se moquer d'elle. Il va dire « Ah ben non, c'est fini le féminisme là, maintenant c'est chiffon et compagnie. » Oh que ça fait mal, oh que ça fait mal. Ce sont les paroles mêmes du diable. Mais le diable, voyez-vous, n'est jamais que le bâton dans la main de Dieu. Il n'est rien en lui-même par rapport à nous. Oh que ça fait mal, mais en même temps, n'est-ce pas un châtiment, n'est-ce pas une pénitence imposée pour tant d'années de désordre? Et si l'épouse en question, tout d'un coup, se révolte en disant « Ah ben non, je suis anti-féministe, je vais te casser la figure, tu vas voir, espèce de mécréant, oh là là !» Est-ce que vous croyez que c'est la bonne façon? Est-ce que vous croyez que la paix du Christ règne dans son cœur? Non, mais si elle se laisse humilier, si elle se laisse comme ça, vous pensez bien que le Dieu qu'elle sert ne l'abandonnera pas. Et que le diable, d'une manière ou d'une autre, sera renvoyé à sa niche par le Dieu qu'il aura utilisé pour la perfectionner, pour la purifier, pour lui faire pénitence dans un premier temps. N'en restons pas, ne soyons pas naïfs, au point d'en rester toujours aux premières impressions. Allons un peu plus loin. Pour obtenir et conserver cette paix, qui est la tranquillité de l'ordre, eh bien, il faut faire son devoir pour l'amour de Dieu avec perfection, sans se laisser troubler par les oppositions, les échecs, les moqueries, etc. C'est là où nous voyons l'utilité d'accepter les humiliations. Plus nous acceptons les humiliations en tant que châtiment de nos péchés passés, plus nous pratiquons, nous acquérons l'humilité volontaire. Plus nous avons conscience de mériter les châtiments, plus aussi se fortifie en nous notre cœur tel que Dieu l'aime, tel que Dieu le veut, le cœur du Christ en nous. Plus nous maîtrisons, nous devons mettre de notre propre concupiscence, plus, eh bien, nous rejetons le monde selon l'ordre, en paix, plus, eh bien, mes très chers frères, nous nous soustrayons à l'influence du diable. Et donc, nous soustrayons notre famille à l'influence du diable. Qu'il est triste de voir les petits apologistes, les petits ou grands d'ailleurs, l'apologiste au sein de leur famille, l'apologiste de l'Église, déployer de grands renforts, surtout après quand ils ont regardé bien plein de vidéos apologétiques, de grands renforts d'arguments, etc., et se comporter lamentablement en charnel immédiatement après. Oui, regardez, par A plus B, le système immunitaire de la France, c'est le catholicisme, parce que ceci, cela, la grandeur de nos rois, la grandeur, la décadence de la République, etc. Bon, alors, non, le dernier chocolat, c'est pour moi, oh là là, pourquoi j'en suis privé? Ah, ben voilà, c'est merveilleux, merveilleux. Une sensualité, une gourmandise a tout ruiné. Qu'il est pitoyable d'être dans le désordre, mes très chers frères. Nous sommes des héros, des champions autoproclamés de l'Église, de la vérité, du christianisme, que sais-je, et nous nous laissons aller à notre concupiscence. Maîtrisons plutôt notre concupiscence dans le silence, et vous verrez si Dieu ne rend pas notre silence fécond en arguments. Qu'il est triste d'être dans le désordre, qu'il est triste de prêcher la conversion à son prochain alors qu'on est tout dans la poursuite de son amour-propre et de sa volonté propre. Pour en revenir et terminer avec les familles chrétiennes, saint Paul nous dit que la parole du Christ habite en vous abondamment en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'action de la grâce. Quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Il faut que l'exhortation ait lieu selon l'ordre. Et là, maintenant, nous voyons plus une famille positivement chrétienne, où tout le monde, il y a une harmonie chrétienne en tout cas, l'harmonisation de la foi qui se fait. Le devoir des parents est non seulement d'enseigner leurs enfants, de leur apprendre le catéchisme, etc., mais il est aussi de les baigner dans la lumière divine. Ce n'est pas une leçon simplement d'arithmétique qu'on fait, et puis après, quand c'est fini, on passe à autre chose. Il faut les baigner dans la lumière divine. Et comment cela se peut-il si le père et la mère ne sont pas eux-mêmes, premièrement, dans l'ordre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des apologistes indiscrets de la religion chrétienne et autres, si ils ne sont pas dans l'ordre mutuel, c'est-à-dire la mère soumise au père, le père assumant réellement son rôle de chef de famille, s'ils ne sont pas remplis de l'amour de Dieu, et s'ils ne sont pas féconds en bonnes œuvres, pour l'amour de Dieu. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dit l'apôtre. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Soyez remplis de Dieu, vous parlerez de Dieu. Attention, si j'ose dire, pour prendre une façon un peu étrange de parler, vous parlerez Dieu, vous direz Dieu. Tandis qu'on peut très bien avoir le cœur rempli de toutes sortes d'arguments, on peut parler de Dieu sans jamais vivre selon Dieu. Nous avions commencé ce sermon en citant les paroles du verset alléluiatique. Vous êtes vraiment un roi caché, le Dieu d'Israël, le Sauveur. Dieu caché dans le cœur, manifesté par les œuvres de lumière, mes très chers frères, c'est cela qui est le secret de la Sainte Famille, c'est cela qui est le secret de la famille catholique. L'ordre, la charité, la pénitence. Et ce Dieu caché dans le cœur qui est le sauveur non seulement de nous-mêmes, mais aussi de tous ceux que Dieu nous a donnés comme prochains, proches et privilégiés, qui sont les personnes que nous aimons le plus au monde, qui sont les gens de notre famille. Mes très chers frères, que tous les membres de votre famille connaissent le vrai Dieu, qu'ils se convertissent, que vous puissiez y aller, aller tous ensemble au ciel, dans l'Église, grâce à l'Église. Mes très chers frères, c'est là notre prière. Cette messe est offerte spécialement pour toutes les familles de la communauté, pour l'Église tout entière, qui est une grande famille, afin que le Seigneur illumine de sa grâce tous ceux qui doivent être encore illuminés, qu'il fortifie tous ceux qu'il a déjà illuminés de sa grâce, et surtout qu'il leur donne d'être dans l'ordre, dans l'humilité, l'esprit de pénitence, afin que leur bouche parle de l'abondance de leur cœur, Dieu caché dans leur cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.